Les journées de l'économie.
GECO.
GECO, l'édition 2013.
Bonjour à tous. Pour la dernière journée des JICO 2013, nous avons le privilège de nous trouver avec Pascal Lamy, donc ancien directeur de l'OMC jusqu'à encore quelques mois. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions. Donc nous sortons de votre conférence sur l'avenir de l'Afrique. La première question qu'on peut peut-être vous poser, c'est vous avez parlé pendant cette conférence des rapports que l'Afrique entretenait avec le reste du monde en disant qu'elle était encore caractérisée par un rapport dans le sillage de la colonisation nord-sud et non pas sud-sud. Est-ce que vous pourriez peut-être préciser cette question ?
Oui, disons, comme on l'a discuté à l'occasion de ces GECO, l'Afrique est bien partie. C'est un continent en préémergence, mais elle pourrait faire mieux. Et un des secteurs où l'Afrique a encore des faiblesses, c'est dans la structure de ses relations économiques avec le reste du monde, un peu comme si on avait fait la décolonisation politique dans les années 60, c'est-à-dire il y a plus de 50 ans, et comme si la décolonisation économique restait à faire. Quand on regarde les échanges africains avec le reste du monde, ça a été vrai pendant longtemps pour la relation avec l'Europe ou les États-Unis, c'est maintenant vrai avec la Chine, l'Inde ou le Brésil, c'est quand même essentiellement des matières premières, des produits du sous-sol, donc une économie rentière, à parfum assez colonial. Et ça, c'est un problème, c'est un handicap, notamment parce que ça correspond à une autre faiblesse qui est l'absence d'intégration économique intra-africaine. Les économies africaines, en moyenne, sont trop petites. Les colonisateurs ont fabriqué à coups de crayon sur des cartes diplomatiques ou militaires à la fin du 19e siècle, cinquantaine d'États sur ce continent. La plupart sont d'ailleurs des États enclavés. Il n'y a pas un autre continent sur cette planète où il y a une proportion ne fût-ce qu'analogue au nombre de pays enclavés en Afrique. Et chacun sait qu'être enclavé, c'est un facteur de faiblesse. Il suffit de regarder l'histoire économique de l'humanité pour le constater. Donc là, il y a un enjeu très fort qui est, dans les décennies à venir, de faire en sorte que les pays africains, les zones africaines, échangent entre elles, ils ont de l'ordre de 30 à 40% de leur production. L'Asie, l'Europe aujourd'hui, c'est de l'ordre de 60%. L'Afrique, comme le Moyen-Orient d'ailleurs, mais pour d'autres raisons, c'est de l'ordre de 10%. Donc là, il y a un vrai problème. Ça n'empêchera pas l'Afrique de croître. L'Afrique va croître dans les 20 années qui viennent pour des raisons structurelles et parce qu'il y a un gros bouillonnement entrepreneurial et une très grosse dynamique démographique. Il y a une émergence de classe moyenne dont l'expérience prouve que c'est ça, finalement, qui fait l'émergence économique. Mais elle pourrait faire beaucoup mieux si elle s'intégrait régionalement. C'est d'ailleurs aussi le problème qui est là pour améliorer des infrastructures de type transport-énergie qui ne sont pas locales, qui sont régionales. Et quand je dis régional, je pense sous-régional, avec une zone d'intégration en Afrique de l'Ouest, une en Afrique de l'Est, une en Afrique du Nord et une en Afrique australe. La vérité étant que ces dynamiques d'intégration politique et économique sont aujourd'hui très inégales.
Et alors, peut-être, si on prend le problème dans l'autre sens, c'est-à-dire non pas les rapports de l'Afrique au reste du monde, mais la façon dont le reste du monde, et en particulier les Européens, considèrent l'Afrique. Monsieur Soual, pendant la conférence, a dit qu'il y avait encore un problème de perception de l'Afrique. Comment est-ce que ça peut être amené à évoluer dans les prochaines années ?
Je pense qu'il a eu raison de dire cela. C'est un point de vue que je partage. L'opinion européenne sur l'Afrique est en retard sur la réalité. Beaucoup d'Européens, y compris de Français, continuent à penser que l'Afrique est un continent maudit, où il n'y a que des catastrophes, et où les habitants ne pensent qu'à partir sur des barques pour aboutir sur les côtes européennes. C'est plus qu'une erreur de perception. C'est idiot. Les quelques Africains, par rapport à la masse des populations africaines qui émigrent dans les conditions épouvantables qu'on sait, viennent d'Érythrée, de Somalie, du Soudan, de la République démocratique du Congo, qui se trouvent être des trous de gouvernance en Afrique. Ce sont ce qu'on appelle des États faillis. Ce n'est pas l'Afrique. C'est certains endroits en Afrique, et s'il y a la même chose dans d'autres zones du monde, ça produit exactement les mêmes résultats. Donc ce n'est pas un problème africain. Par ailleurs, je pense que, compte tenu des perspectives de développement économique, social de l'Afrique dans les 20 années qui viennent, l'Afrique devrait être davantage une priorité pour les Européens, pour les dirigeants européens, pour l'Union européenne. Si vous regardez ce qui s'est passé au cours des 15 dernières années, la priorité géopolitique qui a longtemps été donnée par l'Union européenne à l'Afrique, dans les années 50, 60, 70, on dit « oui, mais c'était parce qu'il fallait sortir de la colonisation ». Ben oui, mais c'est l'histoire, c'est ça. Cette priorité s'est effacée. L'Afrique n'est plus aujourd'hui, disons-le franchement, au premier rang des préoccupations géopolitiques des dirigeants européens, et qu'il s'agisse des dirigeants nationaux ou des institutions européennes, et je pense que c'est une erreur à laquelle il faut remédier assez vite, parce que quand les Européens auront compris qu'il y a 1,5 milliard d'habitants à leur porte, et que entretenir une relation historique, culturelle, politique, économique, sociale avec ce continent est déterminant pour l'avenir de l'Europe. Je ne parle pas là en tant qu'ami de l'Afrique, je parle en Européen. Je crois que là, il y a une erreur de parallaxe à laquelle il faudrait remédier le plus vite possible.
Donc, si on fait un peu le lien avec le thème des JICO de cette année, reconstruire la confiance, ce serait une priorité de reconstruire la confiance aussi au niveau mondial, et en particulier vis-à-vis de l'Afrique.
Absolument. Je pense que, si vous voulez, dans les deux ou trois décennies à venir, un rapport de confiance entre l'Europe et l'Afrique, et un rapport de confiance, ça marche dans les deux sens, est nécessaire et qu'il y a beaucoup à faire.
Et toujours peut-être, en ce qui concerne ce thème de la confiance, donc, si on se place cette fois du côté européen, et non plus vraiment du côté de l'Afrique, Monsieur Marty a dit en vous présentant que vous étiez résolument européen, encore maintenant. Au vu des derniers épisodes de la zone euro, que pensez-vous de la manière dont la perception des Français a pu évoluer en ce qui concerne l'Europe, reconstruire la confiance aussi au niveau de la construction européenne ? Est-ce que c'est possible?
Non, mais ce qui est vrai, c'est que je reste fondamentalement persuadé de la nécessité et de l'intérêt de l'intégration européenne. Et que, disons, j'avais un peu cette idée-là après mes 15 ans à Bruxelles, mais je l'ai encore plus après mes 8 ans à l'OMC. Hein. C'est-à-dire que j'ai vu l'Europe de l'extérieur pendant 8 ans, et je suis d'autant plus persuadé que, disons, l'option européenne pour la civilisation est indispensable. Hein. Simplement, effectivement, c'est compliqué parce qu'on est toujours face aux mêmes questions qui est comment constituer un espace supranational, économique, politique, symbolique, social dans une certaine mesure. Et de ce point de vue-là, c'est vrai que, disons, la construction européenne traverse une mauvaise passe. Regardez ce qui s'est passé depuis les années 50. La construction européenne n'a jamais été un long fleuve tranquille. Hein. Il y a eu des rapides, il y a eu des moments de stagnation. On est sûrement dans une des crises les plus sévères, sinon la crise la plus sévère que l'intégration européenne ait connue. On verra ça d'ailleurs probablement aussi à l'occasion des élections au Parlement européen qui auront lieu l'année prochaine et qui sont très importantes. Une grande partie de ça, pas tout, une grande partie de ça est quand même due à la crise. Et, qui a révélé des défauts de construction de l'union économique et monétaire, hein, et un certain nombre d'entre nous l'avions dit d'ailleurs à l'époque, y compris Delors, avec lequel j'ai longtemps travaillé, on a fait une union très, très monétaire et pas très économique. Et là, il y avait un problème de, disons, de, une asymétrie dans les disciplines dont l'importance s'est révélée au moment où il a fallu gérer la crise, c'est-à-dire mettre en œuvre des mécanismes de solidarité pour, disons, compenser l'effet de choc sur les différentes économies, que l'intégration des systèmes financiers, qui était d'un seul point de vue supérieur à l'intégration des systèmes institutionnels, avait provoqué. Par ailleurs, ceci se traduit par une espèce de partage des tâches qui a été mis sur pied à l'occasion de la crise entre la Commission et les États membres, qui fait de la Commission de Bruxelles et des institutions européennes une espèce de ramina grobis père fouettard chargé de vérifier les comptes à la fin de chaque mois et de taper sur les doigts des États membres si ça ne va pas. Ce qui, à mon avis, est une erreur politique. Il faut des disciplines, il faut des mécanismes de surveillance. Mais ce côté gendarme, coup de sifflet, contravention, je ne pense pas que ce soit le bon moyen, disons, de faire progresser l'attrait, le désir, l'affection, l'amour des citoyens européens pour la construction européenne et disons, la bonne image des institutions européennes. Donc ça, c'est un problème difficile, parce que si on continue comme ça, faut pas s'étonner qu'il y ait une certaine désaffection. Et cette désaffection est préoccupante parce qu'on a besoin d'une légitimité des populaires, on a besoin que les citoyens et les citoyennes soutiennent le projet européen, ça ne peut pas se faire sans eux. Je suis persuadé qu'il faut continuer dans cette direction, parce que, pris individuellement, aucun des États membres de l'Union européenne ne pèsera dans le monde dans 50 ans, et qu'il y a une identité européenne. Si vous regardez l'identité européenne du reste du monde, si vous interrogez les autres sur qu'est-ce que les Européens ont de si particulier qu'il est fait européen, ils vont vous répondre... ils tolèrent moins bien les inégalités qu'ailleurs. Ça, c'est une... de mon point de vue, c'est une vraie identité. Simplement, il faut que les Européens la portent eux-mêmes.
Très bien. Voilà. On va peut-être conclure la suite. Merci encore.